Un vieux dicton dit « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». L'idée est que nous devenons comme les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Et cela peut être bon ou mauvais, selon le groupe. Ce matin, nous allons voir deux groupes. Et ces deux groupes ont eu des réactions complètement différentes face au même événement. Les deux groupes ont vu la même chose, mais sont partis sur deux routes très différentes. En examinant ces deux groupes ce matin, je voudrais que vous vous posiez la question suivante. Dans quel groupe êtes-vous? Sur quelle route vous trouvez-vous aujourd'hui? C'est ce que je veux examiner ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter à Matthieu 28.
28. 1. Après le sabbat, le premier jour de la semaine, à l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Si vous étiez avec nous vendredi soir, nous avons examiné la crucifixion de Jésus. Comment il a été condamné à mourir sur la croix. Il n'avait rien fait de mal. Il a été accusé à tort. Mais il est allé à la croix volontairement afin de mourir pour nos péchés. Il a été crucifié un vendredi, ce qui signifie que le lendemain, samedi, était le sabbat. Le jour du sabbat, il ne fallait pas travailler, pas même préparer le corps de quelqu'un pour l'enterrer. Dans ce premier groupe se trouvent donc les deux Marie, Marie-Madeleine et l'autre Marie, qui doivent attendre le dimanche, après le sabbat, pour terminer les préparatifs de l'enterrement de Jésus.
Et nous voyons ici qu'ils n'attendent pas le dimanche après-midi ou le dimanche soir pour venir terminer les préparatifs de l'enterrement de Jésus. Non, ils sont venus tôt, alors qu'il faisait encore nuit.
Ils sont venus le plus tôt possible, tout en essayant de suivre la loi juive. Nous voyons leur dévouement au Christ, même s'il est mort. 2. Il y eut un violent tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, se rendit au sépulcre, roula la pierre, et s'assit dessus. 3. Son aspect était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Il pourrait s'agir du même tremblement de terre que celui mentionné au chapitre 27, lorsque Jésus est mort, et que le rideau du temple s'est déchiré en deux, ou d'une réplique.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un événement majeur, et un ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre du tombeau où le corps de Jésus a été déposé. Le tremblement de terre a peut-être aidé la pierre à bouger, ou peut-être pas, mais la pierre n'était pas un obstacle à la résurrection de Jésus. Il était déjà ressuscité à ce moment-là. Le tombeau était déjà vide. L'ange du Seigneur est assis sur la pierre, en signe d'achèvement. Mais les deux Marie n'étaient pas les seules personnes présentes.
4. Les gardes eurent tellement peur de lui qu'ils tremblèrent et devinrent comme des morts. Voici le deuxième groupe, les gardes.
Ils veillaient sur le corps de Jésus. Ces hommes étaient de solides soldats. Je suis sûr qu'ils avaient déjà participé à quelques batailles, et pourtant, lorsqu'ils voient tout ce qui se passe, ils ont peur et sont effrayés. Le verset 4 dit qu'ils sont devenus comme des morts.
Comme l'a dit un auteur, les personnes chargées de veiller sur les morts paraissent mortes, alors que le mort a été ramené à la vie. Ils avaient de bonnes raisons d'avoir peur, mais l'ange dit aux Marie qu'elles n'ont pas à avoir peur.
5. L'ange dit aux femmes, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » 6. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. 7. Allez vite dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts et il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. C'est ce que je vous ai dit. » L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, parce qu'ils sont venus au tombeau ce jour-là à la recherche de Jésus. » Les deux Marie étaient sincères. Elles aimaient le Seigneur et elles sont venues ce jour-là pour le servir, même si elles pensaient qu'il était mort.
Lorsque vous cherchez Dieu, avec un cœur sincère, il n'y a rien à craindre. L'un des versets que je cite le plus souvent aux gens est celui de Jérémie 29, mais pas le verset 11, comme vous pourriez le penser. Le 11e verset dit « Car je connais les projets que j'ai sur vous, déclare le Seigneur, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir. » C'est aussi un grand verset.
Mais le verset que je cite souvent est le verset 13, lorsque Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ». Dieu dit que si vous le cherchez sincèrement et sérieusement, vous le trouverez. Il ne se cache pas de vous. Au contraire, il est là pour vous. Frappez et la porte vous sera ouverte. Cherchez et vous trouverez.
Il n'y a pas de raison d'avoir peur lorsque nous cherchons le Seigneur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsque nous cherchons Jésus.
Le livre des Hébreux dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Lorsque l'on cherche sincèrement Dieu, il n'y a pas lieu d'avoir peur.
Les femmes sont venues au tombeau pour chercher Jésus, mais l'ange leur dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il n'est plus mort. Il est ressuscité.
Il est ressuscité, leur dit l'ange, comme Jésus l'a dit.
Tout au long des évangiles,
nous voyons Jésus avertir ses disciples de sa mort et de sa résurrection. À plusieurs reprises, il a dit qu'il devait souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être mis à mort et ressuscité 3 jours plus tard. Mais peu importe le nombre de fois que Jésus leur a dit, il y a toujours quelque chose d'incroyable dans le fait que quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Jusqu'à ce que cela se produise, jusqu'à ce que vous vous trouviez devant le tombeau vide.
L'ange invite les deux Marie à entrer dans le tombeau et leur dit « Venez voir.
Voyez si le tombeau est vide.
Le tombeau était vide ce jour-là et il l'est encore aujourd'hui.
Même 2000 ans plus tard, personne n'a encore trouvé les restes de Jésus.
Et nous savons pourquoi. Parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir.
Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, a triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes.
La mort n'a pas pu le retenir.
La mort n'a pas pu le vaincre. Au contraire, il a vaincu la mort.
Il est ressuscité. Alléluia.
Nous ne servons pas le Dieu des morts. Nous servons le Dieu des vivants.
L'ange dit aux femmes d'aller vite annoncer aux disciples la nouvelle que Jésus est vivant.
Et il leur dit qu'elles verront le Seigneur ressuscité.
Les femmes, effrayées et pleines de joie, s'éloignèrent en hâte du tombeau et coururent avertir les disciples.
Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre.
Il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, lui serrèrent les pieds et l'adorèrent.
Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur.
Allez dire à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. »
Les Marie courent du tombeau pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples.
L'ange avait dit aux femmes de ne pas avoir peur, mais nous voyons que lorsqu'elles sont parties, elles ont ressenti un mélange de peur et de joie. C'était un moment émouvant. Leur ami, qu'elles croyaient mort, était vivant, et elles allaient pouvoir le revoir.
Ils sont allés le dire aux disciples, et, comme l'avait prédit l'ange, ils ont vu Jésus. Ils sont tombés à ses pieds et l'ont adoré. Quel moment!
Les Marie s'étaient levées tôt ce jour-là, s'attendant à voir le corps mort de Jésus. Mais maintenant, elles sont face à face avec Jésus qui est vivant.
Et leur seule réponse, la seule chose qu'elles peuvent faire à ce moment-là, c'est de l'adorer, comme nous l'avons fait ce matin.
Ils tombent devant lui et lui saisissent les pieds.
Ils lui tiennent les pieds. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas un rêve.
Il touche le corps physique de Jésus.
Il n'est pas ressuscité en tant qu'esprit. Il est ressuscité en tant que personne, l'homme-Dieu. 100% Dieu et 100% homme.
Et que leur dit Jésus?
La même chose que ce que l'ange leur avait dit. N'ayez pas peur.
Dans cette vie, nous avons peur de beaucoup de choses. Nous pouvons avoir peur d'être rejetés, peur d'être jugés, peur d'être embarrassés. Peur d'échouer, peur de ne pas être aimé, peur d'être seul.
Il y a tant de choses qui peuvent nous effrayer.
Mais en tant que croyant, vous ne devez jamais avoir peur de Dieu.
Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais enfant, je me représentais Dieu comme un policier, toujours prêt à me frapper avec un bâton, quand je faisais quelque chose de mal. J'ai grandi à l'église
et je chantais des chansons sur la grâce incroyable de Dieu, ou sur sa miséricorde et son amour pour moi. Mais les mots qui sortaient de mes lèvres ne correspondaient pas aux pensées de Dieu que j'avais dans ma tête. Je le voyais toujours comme un policier, prêt à me frapper, et j'avais peur de Dieu.
Même lorsque je suis devenu croyant à l'adolescence, lorsque j'ai fait confiance à Jésus comme Seigneur et que j'ai su que mes péchés étaient pardonnés, il y avait encore une partie de moi qui voyait Dieu comme le policier qui attendait de m'attraper lorsque je faisais des bêtises, qui attendait toujours de m'attraper. Et il m'a fallu du temps pour croire pleinement que Dieu est notre bon Père et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. Et quand je lis la Bible, je me dis que c'est naturel. Il y a eu des moments où Jésus a fait quelque chose d'étonnant et les disciples ont eu peur. Jésus s'est approché d'eux et leur a dit « C'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » En tant que croyants qui bénéficient de la grâce de Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de Dieu. Au contraire, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, sécurité et paix. Sachant qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. L'amour parfait de Dieu chasse la peur.
Lorsque je pense aux relations les plus difficiles de ma vie, c'est lorsque je ne sais pas comment l'autre personne va réagir. Elle est peut-être gentille un jour, mais elle peut se mettre en colère le lendemain. Je ne sais donc jamais où j'en suis avec eux. Je ne sais pas si elle m'en veut ou si elle est contente de moi. Je ne me sens pas en sécurité. Et parce que je ne me sens pas en sécurité, il est presque impossible d'avoir une vraie relation avec cette personne. Parce que je ne me sens pas en sécurité. Parce que je ne me sens pas en sécurité. Et quand on ne se sent pas en sécurité, on ne s'ouvre pas. Il est impossible d'avoir une vraie relation.
Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et à jamais. Vous n'avez pas à vous demander comment il va réagir. Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir s'il sera de bonne humeur un jour, puis en colère le lendemain.
Notre Dieu est notre refuge. Il est notre rocher. Il est notre abri. Il est notre cachette. Vous pouvez être en sécurité en lui. Vous n'avez pas à vous demander où vous en êtes avec Jésus, car la Bible dit que nous sommes dans sa grâce.
Dans la plupart des autres religions du monde, les gens essaient d'atteindre Dieu. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est Dieu qui descend vers nous, qui nous sert, qui nous aime et qui meurt pour nous.
Au lieu que ce soit nous qui payons la peine pour nos péchés, c'est Jésus qui l'a payé en mourant sur la croix.
Il a été enseveli, mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, et vous pouvez être pardonnés et sauvés en vous repentant de vos péchés et en croyant en lui.
La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu... » Quelle est la suite? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La résurrection n'est pas une sorte d'ajout à notre foi, comme
« Oui, je crois que Jésus est mort sur la croix, mais je ne suis pas sûr de la résurrection. » La résurrection n'est pas un ajout que l'on peut prendre ou laisser. La résurrection de Jésus-Christ est au centre de notre foi.
Lorsque Paul définit l'Évangile dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4, la résurrection est au premier plan. 3.
Car ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis comme étant de première importance. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 4. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Notre foi remonte toujours à ce qui s'est passé sur la croix. Elle commence par là, et se développe ensuite. Nous vivons dans la réalité non seulement de notre Seigneur ressuscité, mais aussi de nos vies ressuscitées en lui. Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et du désespoir à l'espoir.
Votre salut est assuré. Votre avenir avec le Christ est sûr. Et vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux d'entre nous qui sont dans le Christ Jésus.
Jésus dit aux femmes d'aller annoncer à d'autres personnes qu'il est vivant.
Pendant que les femmes s'en allaient, quelques gardes entrèrent dans la ville et rapportèrent au chef des prêtres tout ce qui s'était passé.
Comme je l'ai dit, les femmes n'étaient pas le seul groupe présent au tombeau vide ce jour-là. Les gardes étaient là aussi.
Ils étaient au courant des mêmes faits. Ils ne pouvaient pas nier ce qui s'était passé.
Tout comme les femmes, ils sont allés annoncer la nouvelle aux autres.
Mais la réaction des gardes à cette nouvelle est bien différente.
12 chefs des prêtres se réunirent avec les anciens et mirent au point un plan. Ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en leur disant « Vous direz, ces disciples sont venus pendant la nuit et l'ont enlevé pendant que nous dormions. 14. Si ce rapport parvient au gouverneur, nous le satisferons et nous vous éviterons des ennuis. 15. Les soldats prirent l'argent et firent ce qui leur avait été ordonné.
Cette histoire a été largement diffusée parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui.
Les chefs des prêtres et les autres dirigeants de Jérusalem n'ont pas réagi avec foi à la nouvelle du tombeau vide.
Ils n'ont pas réagi à la résurrection de Jésus avec joie et adoration, comme l'ont fait les Marie. Au lieu de cela, ils ont essayé de tout dissimuler. Ils ont réagi par la peur. Que se passerait-il si le peuple découvrait tout cela? Si les gens apprenaient que Jésus a dit la vérité, nous ne pouvons pas accepter cela.
Ils ont donc soudoyé les soldats avec beaucoup d'argent.
Ils ont inventé une fausse histoire selon laquelle les disciples étaient venus voler le corps pendant que tout le monde dormait.
Les soldats auraient pu réagir différemment.
Ils auraient pu réagir à la résurrection dans la foi et la joie. Mais au lieu de cela, ils ont pris l'argent. Ils ont fait ce que les chefs des prêtres leur avaient dit de faire, et ils ont raconté cette fausse histoire à d'autres personnes.
C'est triste. Les gardes ont vu tout ce qui s'est passé ce jour-là.
Mais au lieu de croire la vérité, ils ont contribué à répandre un mensonge. Ils ont gardé leur trésor sur la terre au lieu de le garder au ciel.
Ce jour-là, il y avait deux groupes au tombeau vide. Un groupe a cru et un groupe n'a pas cru. Dans quel groupe êtes-vous? Je prie et j'espère que vous êtes dans le groupe qui court vers Jésus dans la foi, au lieu de le fuir dans la peur.
16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait dit d'aller.
17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes.
Les disciples sont allés en Galilée comme Jésus l'avait demandé.
Et il est dit que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré, comme les deux Maries. Mais certains doutaient.
Lorsqu'il est question de certains, il peut s'agir de certains des disciples, comme le disciple Thomas. Mais il peut aussi s'agir de certaines personnes dans la foule qui se trouvaient également là. Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs.
Et Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. »
19. Allez donc faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
20. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Jésus déclare à ses disciples que toute autorité lui a été donnée par le Père.
Il est tout puissant.
C'est lui qui contrôle tout. Avec lui, tout est possible.
C'est pourquoi, parce que c'est vrai, il leur donne une mission.
Et ce n'est pas seulement la mission des disciples, c'est aussi la nôtre.
Il dit, « Pendant que vous y allez, faites de toutes les nations des disciples. »
Lors de notre étude biblique du mercredi soir, nous avons étudié ce que signifie être un disciple.
Un disciple est un suiveur. C'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et qui suit Jésus.
Jésus dit à ses disciples d'aller faire d'autres disciples de toutes les nations.
La nouvelle de sa résurrection devait être diffusée et partagée.
Aujourd'hui, nous témoignons du fait que ses disciples lui ont obéi.
Nous avons des disciples de Jésus venant de nombreuses nations.
Jésus a dit de baptiser ses nouveaux disciples.
Le baptême est l'expression publique de notre foi au monde. Nous sommes avec Jésus.
Que nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection.
C'est dire au monde que l'ancienne vie est passée
et que la vie nouvelle est venue. Si vous n'avez pas encore été baptisé, je vous encourage ce matin à me contacter pour que nous puissions nous rencontrer et parler de la signification du baptême.
Ensuite, Jésus nous dit d'enseigner aux nouveaux croyants à obéir à tout ce que Dieu a dit. Dieu nous a révélé, par sa parole, comment vivre, comment le suivre, ce que nous sommes censés faire, ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas.
Suivre Jésus est un voyage. Cela implique un mouvement. Cela signifie qu'il vous emmène toujours quelque part. Cela signifie que vous êtes toujours en train de grandir, en alignant de plus en plus votre vie sur ce que Jésus a enseigné. C'était la mission du disciple et c'est aussi la nôtre.
Ce jour-là, les gardes ont répandu la nouvelle que tout était faux. Ils ont répandu la fausse nouvelle que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Tel était leur message.
Mais nous avons un message d'espoir.
Nous avons un message de vérité.
Nous avons de bonnes nouvelles.
Notre Sauveur n'est pas mort, il est vivant.
C'est le message que nous devons partager avec le monde.
Il y aura toujours des mensonges, mais nous proclamons la vérité.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Il est la résurrection et la vie.
Il est le bon berger, et nous pouvons lui faire confiance.
Le dernier verset de l'évangile de Matthieu se termine par une douce promesse. Jésus est toujours avec nous.
Cela signifie que dans les moments les plus solitaires, vous n'êtes jamais seul.
Le Seigneur est avec vous.
Pas de temps en temps, pas de temps en temps, pas de temps en temps.
Jésus a dit, « Je suis avec vous, tous les jours. »
Où que vous alliez, le Seigneur est avec vous.
On me demande parfois, combien de temps il me faut pour préparer un sermon?
Pour moi, cela dépend généralement de l'écriture.
S'il s'agit d'un texte que je connais très bien, cela me prend moins de temps que pour des versets que je ne connais pas bien.
Mais personnellement, j'aime rédiger mes sermons.
Je pense que je suis meilleur écrivain qu'orateur et cela m'aide à organiser mes pensées.
Et parfois, grâce au Saint-Esprit, les sermons coulent de source.
D'autres fois, ce n'est pas le cas.
La semaine dernière, je préparais un sermon basé sur d'autres versets.
J'y travaillais, et disons que ça ne coulait pas de source.
C'était un peu abstrait, et j'avais beau y travailler, ça ne passait pas.
Hier, je me suis arrêté et j'ai dit, « D'accord, peut-être que le Saint-Esprit ne veut pas que je prêche sur ce passage cette semaine. » J'ai donc pris ce sermon et je l'ai jeté à la poubelle. Enfin, il est sur mon ordinateur portable, donc techniquement, il n'est pas à la poubelle.
Mais j'ai senti que l'esprit me poussait à rester simple. J'ai senti que l'esprit me disait, « Clint, donne à mon peuple l'histoire de la résurrection et dégage de là. »
Ce qui m'a amené à Matthieu 28. Le récit de la résurrection dans l'évangile de Matthieu est très simple.
Il n'y a pas une tonne de détails comme dans les autres évangiles.
Mais j'ai confiance que le Saint-Esprit vous a conduit ici aujourd'hui pour vous rappeler ces vérités simples, mais puissantes.
1. Jésus est vivant.
Le tombeau est toujours vide.
Notre Sauveur est vivant.
Et il est ressuscité pour que vous puissiez être ressuscité.
Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a rendus vivants avec le Christ.
La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en vous par le Saint-Esprit.
Nous avons une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia.
2. Tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur est ta lumière et ton salut.
Il est pour toi et non contre toi.
Il te fortifiera. Il t'aidera.
Il te donne sa paix et non celle que le monde te donne.
Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi.
Vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Il est un Père bon, miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité.
3. Jésus est toujours avec vous. Il est avec vous dans vos moments de découragement.
Il vous accompagne sur le chemin du travail.
Il est avec vous lorsque vous êtes bloqué dans les embouteillages.
Il est avec vous lorsque vous vous disputez avec un membre de votre famille.
Il est avec vous
lorsque votre petit ami ou votre petite amie rompt avec vous.
Il est avec vous lorsque vous avez des problèmes financiers.
Il est avec vous lorsque vous avez des problèmes
de santé.
Il est avec vous lorsque vous échouez à un test.
Il est avec vous lorsque vous vous sentez seul.
Il est avec vous lorsque vous luttez contre le péché.
Il est avec vous lorsque vous n'avez pas envie de lire votre Bible.
Il est avec vous lorsque vous êtes dans la confusion.
Il est avec vous lorsque vous vous sentez seul.
Il est avec vous lorsque l'un de vos proches meurt.
Il est avec vous lorsque votre cœur se brise.
Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête.
Il est le bon berger.
Il est la résurrection et la vie.
Nous avons une espérance vivante, parce que nous avons un Dieu vivant.
Alléluia, le Christ est ressuscité.
Alléluia, Jésus a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes. Alléluia, Jésus est vivant.
Invitation. Je vais demander à l'équipe de louanges de s'avancer et de nous conduire dans un chant de réponse à la parole de Dieu.
Et pendant que nous chantons, nous allons avoir un temps d'invitation.
Si Dieu s'occupe de vous ce matin, nous voulons vous aider et prier pour vous. Ce moment est l'occasion de répondre à ce que le Saint-Esprit vous conduit à faire.
Ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur, c'est aujourd'hui le jour du salut.
Si Dieu vous pousse à vous repentir de vos péchés et à placer votre foi en Jésus-Christ, nous vous invitons à vous avancer.
Venez expérimenter la puissance de résurrection de Dieu dans votre vie.
Ou peut-être que ce matin, vous vous efforcez de croire à la vérité sur Dieu,
qu'il vous aime et qu'il est pour vous.
J'aimerais prier pour vous et vous rappeler que le Seigneur est avec vous.
Ou peut-être y a-t-il quelque chose d'autre que Dieu traite avec vous ce matin.
Quelle que soit la manière dont Dieu vous conduit ce matin,
c'est le moment pour vous de répondre.
Je serai ici, à l'avant, pour vous accueillir à votre arrivée.
Laissez-moi prier.
Prière. Père, nous te remercions pour ce jour.
Nous te remercions d'être un Dieu qui peut ressusciter les morts.
Nous te remercions d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous te remercions de nous ressusciter d'entre les morts.
Nous étions morts dans nos fautes, mais c'est toi qui l'as fait.
Mais toi, Dieu riche en miséricorde, à cause de ton grand amour, tu es descendu, et tu nous as rendus vivants avec le Christ.
C'est par ta grâce que nous sommes sauvés.
Merci d'avoir un plan et un but pour chacun d'entre nous.
Puissions-nous apprécier le voyage alors que nous découvrons ce que c'est pour chacun d'entre nous.
C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.